France Culture. Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour et bienvenue dans les midis de culture. À 13h, je recevrai l'autrice Marianne Alphand pour l'Atelier des poussières, paru chez POL. Mais d'abord, et comme chaque jour, les midis de culture se consacrent au débat critique, au menu de bandes dessinées et un coup de cœur. Nous commencerons avec Crimi de Alex Inker et Thibaut Vermeau aux éditions Sarbacane, qui nous plonge aux origines de M le Maudit de Fritz Lang et dans l'Allemagne des années 30. Puis ce sera Moeb sur le parking de Clara Lodwig chez Dupuis, qui raconte le quotidien d'un ado afghan réfugié et sa vie depuis le banc où il passe ses journées. Et avec nous aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, deux critiques affûtées. Lucie Servin, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes journaliste et critique de bande dessinée. Et Antoine Guillot, bonjour.
Bonjour Marie Sorbier.
Producteur de l'émission Plan Large sur France Culture. Bienvenue à tous les deux. Alors vous entendiez pas, chers auditeurs, mais Antoine Guillot allait siffloter cet air que nous sommes en train d'entendre. Il le fera peut-être pendant l'émission, on l'espère. Nous sommes en Allemagne en 1930. L'inspecteur Lohmann apostrophe Fritz Lang. Les deux hommes se connaissent. Le premier avait enquêté sur le meurtre de la femme du cinéaste 7 ans plus tôt. L'inspecteur demande alors à Lang de penser son prochain film à partir d'une enquête en cours, l'affaire dite du vampire de Düsseldorf. Et ce sera bien sûr M le Maudit. Premier avis rapide, Antoine. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande dessinée crimi?
C'est le grand livre de bande dessinée qu'on attendait depuis le début de l'année. C'est phénoménal, c'est d'une intelligence totale. Vous l'avez dit, c'est une plongée dans les arcanes pourrissantes de la République de Weimar, mais c'est surtout une grande réflexion aussi sur les rapports entre bande dessinée et cinéma.
Lucie, même exercice. Est-ce que vous avez plongé, vous aussi, dans l'univers de crimi?
Oui, c'est absolument magistral. Et je me suis demandé comment, en 10 minutes, même un petit quart d'heure, on allait réussir à plonger dans les arcanes de ce livre, tellement il soulève de questions et de... D'abord, d'un point de vue graphique, hein, c'est éblouissant, ce travail au fusain et à l'encre, d'avoir une telle précision, et surtout de mise en abîme du film, de la vie. Mais ce qui m'a encore peut-être... embarqué, c'est cette question sur le pouvoir de l'art à travers, il parvient à réactiver toute la problématique autour du film de Fritz Lang qui est la question du mal, mais il y arrive aussi à la question de qu'est-ce que l'art peut. Le premier chapitre de ce livre, c'est quand même changer le monde. Ça commence avec une citation de Desnos. Il faut savoir que Robert Desnos est un poète résistant mort dans un camp nazi. Et qui dit, alors la phrase...
Oui, vous nous la dites, la citation ?
Le fantôme sort de la salle au bras du spectateur, dans une ville transformée par l'imagination, le destin suit un autre cours. Et je pense que c'est ce qui se passe avec M le Maudit, le monument du cinéma. Et c'était, on pensait avoir peut-être tout dit sur M le Maudit, on ne l'avait jamais dit en bande dessinée, et cette bande dessinée est là pour le dire.
Eh bien, on va essayer quand même en quelques minutes de décrire toutes ces thématiques qu'il y a dans cette bande dessinée. Antoine, d'abord, comment l'univers de Fritz Lang est rendu dans cette bande dessinée ?
Il est rendu en pénétrant presque dans la psyché et dans l'imaginaire de Fritz Lang. On n'en peut plus. Depuis des années, on voit débouler des biographies sans cesse dans la bande dessinée et en particulier du monde cinématographique.
Là, c'est pas une biographie.
C'est généralement dessiné avec les pieds. Ce sont des scénarios extrêmement didactiques qui sont là pour nous apprendre des choses et c'est d'un ennui total. Ici, dès le début, on sent qu'il y a quelque chose quand même de bizarre parce que pour peu que vous connaissiez un peu la filmographie de Fritz Lang, et notamment ce moment charnière pour lui qui est le passage au parlant, et qui est aussi le basculement de l'Allemagne dans le nazisme. Il y a deux films qui sont M le Maudit, mais aussi Le Testament du docteur Mabuse, où il y a un personnage de policier, et ce personnage de policier est joué par un acteur allemand monumental qui s'appelle Otto Wernicke, et... Comment s'appelle ce policier ? C'est l'inspecteur Lohmann. Donc, dès le début, quand Fritz Lang, par hasard, dans la rue, croise l'inspecteur Lohmann, on se dit, c'est quand même bizarre. Donc, on est tout de suite dans l'imaginaire à venir de Fritz Lang, parce que l'inspecteur Lohmann n'existe pas encore dans ses films, mais il est déjà là, dans la bande dessinée, pour lui proposer une sorte de pacte faustien, qui est, je vais t'emmener dans les tréfonds obscurs de la République de Weimar pourrissante, et tu vas en faire un film parce que ça va permettre de faire une sorte de catharsis de la violence qui est en train de monter dans le peuple allemand, et grâce à ça, on va éviter l'horreur. Et puis on se rend compte que cet inspecteur Lohmann a de temps en temps des expressions qui sont du yiddish. Il aime très régulièrement, voilà, il a des jurons comme ça, des choses qui lui échappent. Donc on dit ah oui, et c'est jamais explicité, sauf à la fin du livre, cet inspecteur est juif. Et donc, il ressent lui-même profondément ce qui va se passer. Donc, déjà, on est dans un truc très curieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la biographie documentée de Fritz Lang, même si le livre est incroyablement documenté. Il y a beaucoup d'anecdotes dedans qui sont véridiques par rapport à ce qui s'est passé à l'époque. Mais on est déjà dans l'ordre du fantasme. Et puis, on se rend compte à la fin du livre, dans les petits remerciements, que c'est un livre qui est dédié à David Lynch. Donc, on a envie de relire à cette aune-là et de se dire qu'effectivement, bah derrière les rideaux, il sera question de rideaux aussi. Il y a des forces obscures qui se tapissent et de tout ça, on va faire de l'art. On va faire de l'art doublement puisque Fritz Lang va en faire un film et les auteurs vont en faire un livre tout à fait admirable. Donc on est dans l'imaginaire effectivement croisé à la fois du Fritz Lang de l'époque, du Fritz Lang à venir puisque toutes les thématiques sur la culpabilité, sur les masses menaçantes, sur les faux et vrais coupables sont là, en train de naître. Le film noir lui-même est en train de naître, puisque M. le Maudit, c'est l'histoire d'un homme qui est dépassé par des forces obscures qui l'obligent à agir et qui est à la fois l'émanation de toute la société. L'utilisation par ce graphisme, c'est passionnant comment Alex W. Inker, il faut savoir que Inker, c'est un pseudonyme, hein, donc c'est vraiment l'homme, c'est l'encreur.
L'homme en
réinvente de bande dessinée, je crois que c'est sa septième déjà chez Sarbacane, sa matière. Et là, effectivement, il travaille à la fois la matière de l'expressionnisme, du cinéma, du noir et blanc, de la nouvelle objectivité allemande, et c'est complètement stupéfiant.
Lucie, peut-être justement sur ce dessin, est-ce que vous pourriez nous le décrire ? À quoi elle ressemble, cette bande dessinée ?
Bah, cette bande dessinée, c'est un hommage à l'esthétique en fait de Fritz Lang, et c'est un rendu. Vous savez, c'est un film, qui est très dans la fumée, avec ses rendus argentiques, et c'est un film qui est sublime dans le visuel, puisque et c'est là où il y a l'intelligence de Inker, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un jeu d'ellipses, c'est le premier film parlant de Fritz Lang, donc il y a des passages qui sont muets aussi dans le film, il y a des passages qui ne sont non montrés, la question par exemple de cette fillette au début, enfin le début du film est magistral et on le revoit réintégré en bande dessinée en citation. C'est pour ça que peut-être il y a un tout petit bémol qu'on peut faire sur ce livre, c'est que c'est vrai que c'est un livre qui a cette accessibilité, lisibilité qu'il y a toujours chez Inker dans les adaptations, mais en même temps c'est un livre qu'on savoure d'autant plus qu'on se replonge dans Fritz Lang.
C'est-à-dire qu'il faut avoir vu M. le Maudit pour apprécier cette BD.
Je pense que après l'avoir lu, de toute façon c'est un livre qui gagne à être lu. Et qui gagne à être lu dans sa profondeur pour y voir tout ce qui a été mis à l'intérieur. Et effectivement, bah, je pense que ne pas voir M. le Maudit, mais ne pas voir non plus La Femme dans la Lune, et ne pas voir non plus Le Testament du docteur Mabuse, puisque ce dont tu parlais sur l'inspecteur Lohmann, c'est aussi cette tragédie de ce film qui s'est fait, M. le Maudit, et Le Testament du docteur Mabuse, qui a été censuré par les nazis. Donc, il y a toute cette mise en scène sur la filmographie allemande de Fritz Lang qui est dans cette BD. Donc évidemment, se replonger dans Fritz Lang, c'est...
Mais ça peut-être aussi donner envie finalement de voir les films.
Tout à fait, et de les revoir à l'aune de ce qui est dit là. Il y a un personnage qui est Lohmann, c'est que des jeux de miroir en fait, aussi cette bande dessinée, avec le motif de la spirale hein, qui ouvre et ferme le livre. Donc il y a cet inspecteur Lohmann, qui est le double fictif de Fritz Lang, qui était son personnage, et il y a aussi ce personnage de Hans, qui est le majordome, et qui a le même prénom que le meurtrier dans M. le Maudit. Et ce personnage de Hans m'a beaucoup fasciné, et j'ai trouvé que c'était un twist scénaristique absolument passionnant. Juste, je voudrais juste dire sur ce livre, parce que ça me semble important, il s'appelle Krimi. Krimi, ça veut dire polar en allemand, c'est un hommage au genre, mais à un genre qui est l'essence même du genre, et je pense que c'est aussi ce que Fritz Lang a voulu faire dans M. le Maudit, c'est-à-dire ce désir de savoir, de comprendre. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette conversation entre Lohmann et Fritz Lang, c'est-à-dire que c'est la recherche de l'homme en noir. L'homme en noir, c'est la comptine qui est dans la ronde dans des enfants, qui fait référence à à un autre meurtrier que Peter Curtin. Enfin, voilà, c'est pour vous montrer un peu comment ça s'imbrique, s'intrique, etc. Mais crimi, ça veut dire donc ce polar, et pour moi, c'est un peu la pulsion du mystère, cette envie de connaître, cette envie c'est la pulsion de vie contre la pulsion de mort dans le désir de comprendre.
Antoine, vous êtes d'accord, c'est un polar cette BD-là? On peut dire que ça se lit comme un polar?
C'est aussi un polar parce qu'il y a effectivement ces meurtres en série du vampire de Düsseldorf, l'horrible Peter Curtin, qui est une des sources d'inspiration de M. Lomondi. Donc ça suit aussi sur sa traque de cet homme. Et l'inspecteur Lohmann va plonger Fritz Lang justement dans ses crimes.
Il l'emmène scènes de crime.
Sur des scènes de crime. D'ailleurs, c'est très curieux parce que les crimes de Peter Curtin sont montrés comme des petits théâtres d'ombres chinoises, un peu comme l'auteur Heininger, à l'époque, faisait des dessins animés en ombres chinoises. Parce que, disent les auteurs, parce qu'on parle beaucoup d'Inker, mais il faut aussi parler de Thibaut Vermeau, hein, qui est le scénariste, qui est un romancier très inspiré de Stephen King, d'ailleurs, donc il aime bien travailler un peu l'horreur comme ça. Mais les meurtres ne sont pas montrés du tout de manière...
ils sont stylisés.
Ils sont stylisés, c'est-à-dire que tout est dans ces théâtres d'ombre chinoise. C'est aussi un peu comme ça se faisait à l'époque, hein, vraiment dans la bande dessinée allemande. Or, quand Fritz Lang est amené lui-même sur des scènes de crime, alors là, par contre, on voit tout. Et on voit une scène, ça rappelle presque l'installation de Duchamp, étant donné sur cette femme morte avec les jambes écartées. Ça annonce le Dahlia noir plus tard. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'horreur en face, et avec cet air toujours un peu impassible de Fritz Lang, avec son monocle qui est comme un rond blanc dans l'œil. Donc on a une alternance comme ça de choses très très horribles et de choses très 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 mises à distance. Donc on est toujours dans une sorte de malaise qui est précisément ce moment un peu glauque de la République de Weimar, où on ne sait plus trop où sont les limites, où est la dignité, est-ce qu'elle est du côté des gangsters qui eux veulent s'organiser et surtout pouvoir conduire leur petit business sans être embêtés par ce tueur en série qui leur met toute la police à dos. C'est exactement ce que raconte M. Le Maudit. Et d'ailleurs, le personnage de Adolphe le Muscle, qui est le grand caïd berlinois qui révèle quelques petites vérités
avec ses dents qui brillent,
et qui surtout va faire une visite, là graphiquement c'est époustouflant, oui, parce qu'il y a ce motif en spirale, alors, qui est aidé par moments par des numérotations des cases, mais une fois qu'il nous a montré qu'on ne suivait pas forcément la mise en page traditionnelle, il y a cette scène extraordinaire où il va aller sur les décors de tournage dans cette usine à Zeppelin, ce hangar à Zeppelin qui est tenu par un pro-nazi d'ailleurs, qui s'inquiète un peu du titre d'origine de M. Le Maudit, qui vraiment les assassins sont parmi nous. Il avait peur que ça parle des nazis. Quand on apprend que c'est l'histoire d'un tueur en série qui tue des petites filles, tout va bien. Il n'y a aucun problème, on peut tourner. Donc le caïd va faire cette visite sur le plateau de tournage, et tout d'un coup la mise en scène, la mise en page est complètement explosée, et on se rend compte qu'il faut suivre les personnages à l'intérieur même du décor pour comprendre ce qu'ils se racontent, et pour qu'ils lui expliquent par exemple, ah oui, c'est pas mal votre truc, mais chez nous, quand on se réunit, il y a toujours un rideau au fond, c'est pas pour cacher une fenêtre, c'est parce que derrière, il y a le conduit à charbon par lequel on peut s'échapper si jamais il y a une descente de police. Ça annonce une descente de police qui aura lieu plus tard sur le tournage, parce que ce que raconte, et ça c'est véridique, c'est que tous les figurants de la fameuse scène à la fin du jugement de M par la pègre, ce sont des vrais truands berlinois qui sont tous rassemblés ici pour faire nombre. Il y a aussi des réflexions extraordinaires de Fritz Lang sur comment faire cracher de l'argent aux producteurs juste pour montrer qui c'est le chef. Quoi.
Ouais, pour augmenter d'un étage et les immeubles.
Qui c'est le chef, on le verra plus tard, c'est Goebbels.
Dernière question, Lucie. Cette BD, elle pose aussi la question du cinéma comme outil d'éducation du peuple. Est-ce qu'un film peut faire baisser la criminalité? C'est aussi une question qui est posée.
C'est une question qui est posée, mais c'est aussi la question qui est posée. C'est aussi la question qui est posée par la scénariste du film. On parlait du scénariste du livre. On peut parler aussi de la scénariste du film.
Théa von Arbou,
qui elle était une nazie, qui était la deuxième femme de Fritz Lang, mais qui a, il y a toute cette question de la responsabilité de la société par rapport à ces mass murders qui arrivent. On parlait de la différence entre le réel et la fiction. Toute cette imbrication, il faut aussi rappeler que M. Le Maudit est le premier film expressionniste documentaire de Fritz Lang. Lui-même s'est beaucoup, beaucoup documenté pour faire ce livre, avec les inspecteurs de police, etc. Et elle dit, quand un crime est commis, c'est toute la société qui est responsable, à un niveau ou à un autre. Et si ce parallèle entre... dans l'éducation, la question de l'éducation du cinéma, je ne sais pas si le cinéma peut changer le monde ou éduquer, en tout cas, il peut parvenir à exprimer l'esthétique, par son esthétique, les problématiques d'une époque, celle qui, des tueurs en série allemands, va amener aux tueurs de masse qui étaient Hitler et les nazis.
Tout dernier mot, Antoine.
Oui, parce que c'est précisément le projet de Lohmann, ce qu'il propose à Fritz Lang. C'est aussi une réflexion sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de violence au cinéma. Quel effet cathartique ça peut avoir pour éviter que nous-mêmes nous allions tuer des gens dans la rue. Sauf que à la fin, et ça, là encore, c'est véridique, ce sera pour ça que Fritz Lang s'en ira. Goebbels avait peut-être censuré le testament du docteur Mabuse, mais il était prêt à donner les clés du cinéma allemand à Fritz Lang parce que à cause de son film sur les Nibelungen, notamment Hitler adorait ce qu'il faisait. Et donc, c'est le même pacte que lui propose Goebbels, c'est que le cinéma est une influence sur la société. Sauf que là, c'est l'influence qui permettra effectivement les meurtres de masse qu'on a connus à cette époque-là. Et je vous fais juste une petite citation du livre, parce que ça annonce un peu ce dont nous allons parler avec Moeb sur le parking. Le monde de M, comme le nôtre, est un monde qui tâche de se débarrasser de ses enfants. C'est pour ça qu'on en verra si peu dans le film. Hans, le fameux Hans, c'est pour ça qu'on les tue.
Crimi d'Alex W. Inker et Thibaut Vermoy, paru aux éditions Sarbacane. Et Antoine, vous les retrouverez tous les deux dans Plan Large samedi sur France Culture. Antoine Guillaume, vous allez devoir faire court, mais vous vouliez nous recommander une bande dessinée. Alors, quel est votre coup de cœur, Pascal ?
Je vais faire rapide. C'est dans l'œuf, Pascal. Vous trouverez Gary Gary d'Hug Mikkel chez Cornelius. Hug Mikkel, c'est un auteur qui est très, très prolifique, qui travaille seul ou avec des scénaristes. Mais là où il est toujours le plus génial, c'est dans sa part la plus expérimentale, qui est précisément publiée chez Cornelius. Il y avait eu trois renommés Romanji, Sequel, Tumulte. Et il y a maintenant Gary Gary, qui est une bande dessinée entièrement muette, qui se passe dans un Japon médiéval qui ressemble un peu au film d'Akira Kurosawa. C'est vraiment du Shambara, c'est du film de ça, mais c'est contaminé par l'imaginaire des yokai, comme les dessinait Shigeru Mizuki, qui est aussi édité par Cornelius. Et donc, ça va suivre les pas tout à fait virevoltants d'un jeune ninja. Il est très beau, il est tout à fait transformiste, mais y compris de son visage. D'ailleurs, de temps en temps, il se malaxe le visage et il se transforme en quelqu'un d'autre et qui est mandaté pour régler un conflit entre deux clans, pour récupérer une flèche qui a mis le feu aux poudres dedans. Et c'est surtout, voilà, c'est narrativement, graphiquement, c'est époustouflant de vigueur et d'invention. Là encore, Hug Mikkel lui aussi se réinvente. Il était connu pour ses masses noires au pinceau. Là, c'est entièrement à la plume. On a l'impression d'entendre le crissement sur le papier. Ça fourmille de traits, de détails, de folie. Et comme c'est entièrement muet, parfois on se demande mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut un peu d'attention pour comprendre. Il faut trouver son chemin, lire et relire ce livre. C'est un nouveau chef-d'œuvre d'Hug Mikkel. C'est un auteur injustement sous-évalué par rapport à ses pairs, mais qui a découvert d'urgence Gary Gary d'Hug Mikkel chez Cornelius.
Changement de cadre, d'époque et de paysage. Dans cette deuxième bande dessinée au programme aujourd'hui, nous rencontrons Moeb, un mineur afghan réfugié qui passe ses journées assis sur un banc dans un parking. Ce parking, lieu de passage, devient ici une scène où défile une galerie de personnages. Lucie, est-ce que ça vous a intéressé, Moeb, sur le parking ?
Ah oui, beaucoup. Et pour renouer non seulement avec Fritz Lang, on sait que le film de M. Le Maudit finissait sur l'idée de surveiller les enfants. Là, on arrive sur la question des mineurs non accompagnés. On arrive sur ce parking avec un autoradio qui d'une voiture qui arrive et qui nous dit il y a 3500 mineurs non accompagnés qui arrivent chaque année en Belgique, puisque Clara Lodvig est flamande, donc elle parle de la Belgique. On s'attend à une BD documentaire un peu militante, et pas du tout. On retrouve ce Moïb isolé sur son banc, avec son ballon de foot, les bras croisés, et on va le découvrir au fil des pages, par petites touches, en restant presque à son épaule. C'est une écriture très très originale de Clara Ludwig. Elle avait déjà fait ça sur sa dernière bande dessinée qui était Merelle, où on découvrait cette femme qui devient le bouc émissaire dans un village. Et là, on découvre Moïb par petites touches, en s'approchant de lui, avec cette écriture d'observation qui reste au plus près, qui s'approche sans jamais prendre la place d'eux, et c'est là qu'il y a une justesse assez importante dans cette BD qui nous fait rendre la sensation, le vécu, le quotidien du temps qui passe.
Antoine, un premier regard.
À premier regard, c'est très étonnant parce qu'effectivement, c'est tout ce qu'on, ce n'est pas tout ce qu'on pouvait craindre d'un livre pareil. C'est un peu de la psychogéographie d'un non-lieu qui est ce parking. C'est extrêmement sensoriel. On verra comment elle y parvient. Et c'est là encore, ça aborde surtout quelque chose qui me semble jamais abordé dans ces questions-là. C'est l'impact presque psychiatrique que peut avoir cette situation sur ces jeunes mineurs.
Alors Lucie, vous avez commencé à le dire, mais est-ce que vous diriez que cette bande dessinée permet au lecteur de comprendre finalement ce que ça signifie être en exil ?
Oui, parce que on parlait de traumatisme, c'est exactement ça, c'est comment rendre compte des traumatismes d'une personne sans se mettre à sa place et parler à sa place. Et je pense qu'il y a vraiment eu une réflexion de l'autrice d'approcher ce Moïb qui est en insécurité quand même. Il vit sur ce parking dans cette zone de non, enfin c'est un terrain vague, elle a un découpage de cases très très millimétré, je dirais. C'est presque une entomologiste de la sensation, hein, c'est-à-dire que dans sa manière de composer, et le mal-être arrive par un mal de ventre, par un mal de tête, par des questions de médicaments, par
une insolation,
et on comprend tout ce rapport à l'eau. En fait, elle arrive à créer. En fait, Moïb se découvre non seulement par les relations qu'il a avec les autres, se singularise par la relation qu'il a avec les autres, par les regards que les autres lui apportent, et par cet environnement avec ce qui paraît très quotidien, enfin très pragmatique, très concret, et qui petit à petit glisse un petit peu métaphoriquement, notamment sur cette question de l'eau, qui est à la fois l'eau du vivant, c'est-à-dire cette nature qui quand même ressurgit sur le parking et qui est en même temps la source d'un traumatisme, puisque on tourne autour de l'eau. Moïb ne veut pas s'approcher de l'eau et petit à petit on comprend un malaise terrifiant. Et c'est là où cette bande dessinée, qui a l'air très très lumineuse, a un côté assez déprimant sur les rapports et communicabilité entre les êtres.
Antoine, choisir comme personnage principal un mineur, un adolescent, ça permet bien sûr à l'autrice de pas seulement évoquer le mal du pays, mais aussi d'évoquer le manque de la mère. Il y a beaucoup de liens avec sa mère et puis avec les mères qu'il croise. Est-ce que vous pensiez que c'était un choix judicieux, cet angle-là ?
Oui, mais justement, elle en tire pas trop, matière à pathos. C'est-à-dire que c'est un livre extrêmement béhavioriste. Elle l'observe, ce jeune homme qui garde sa part de mystère. C'est-à-dire, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait même pas du tout pourquoi est-ce qu'il est parti. On ne sait même pas quelle est sa relation à sa mère. On sait que c'est une relation très sensitive, là encore presque olfactive, puisqu'il garde en permanence autour du poignet un foulard qui a appartenu à sa mère, qu'il renifle sans cesse. Et surtout, c'est la dimension mineure précisément qu'elle montre. C'est-à-dire qu'elle montre que c'est un gamin. C'est un gamin, mais surtout c'est quelqu'un dont les gens vont se servir. Et c'est ça qui est le plus étonnant et le plus juste sans doute dedans, c'est qu'il est là, il est à disposition en fait. Et les gens passent et certains vont se servir de lui avec les meilleures intentions du monde. Bah, par exemple, un jeune garçon dont on suspecte que c'est un jeune homosexuel dans son lycée, qui n'est pas très bien intégré, qui rêverait de partir lui aussi, de quitter sa maman, et qui voit en lui une sorte de modèle de liberté, d'audace, etc. Sauf que lui, le soir, il rentre chez lui et il rentre chez sa maman. Et pendant la journée, il va taper la balle avec lui sur ce parking. Mais c'est le premier à se servir de lui. Puis un jour, ce garçon disparaît. Et là, c'est sa mère qui arrive en disant « Mais est-ce que tu sais pas où est-ce qu'il est parti ?» Et puis tiens, bah, il est là, ce jeune garçon, si je le prenais comme fils de remplacement. Et si je trouvais, si me permettait de guérir de ma dépression, etc. Et en fait, ce gamin est sans cesse utilisé par des gens, y compris par ses amis. Il y en a deux autres qui sont autour de lui. Il y en a un qui est un peu dragueur, qui vit une histoire d'amour clandestine avec une jeune fille. Il y en a un qui le méprise, qui le traite de paysan sans cesse parce que lui vient d'une famille de lettrés, d'universitaires à Kaboul. Et lui, à chaque fois, il est là sur ce parking et puis, il a ces moments à la fois d'hypersensibilité au monde, et ça, c'est très bien rendu par des onomatopées de tous ces petits bruits qu'il peut y avoir sur un parking. Et on sent que Clara Ludwig, qui vit dans un van, autant que je sache, a beaucoup étudié ces non-lieux où se passe plein de choses, où des oiseaux se font tuer par des chats, où on écrase un escargot sans faire exprès, où tout fait du bruit. Et puis, il a des moments d'absence totale, où il se retrouve coupé du monde, et là tous les bruits disparaissent. Et c'est très rare en bande dessinée qu'on arrive à rendre aussi bien l'ambiance sonore et l'état psychologique de quelqu'un qui est en pleine dissociation, en fait, entre cette hypersensibilité au monde dans lequel il est et un monde intérieur en train de s'effondrer, de s'écrouler, et où personne ne l'aide, en fait. Il y a des gens qui l'aident, mais à chaque fois, notamment une association, mais à chaque fois on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils l'aident et quels sont leurs ressorts cachés, l'intérêt qu'ils vont y trouver. Donc c'est un livre très cruel en même temps.
Lucie, un dernier mot sur le dessin peut-être, à quoi
oui,
ça ressemble?
Justement, le dessin, c'est un dessin presque très peu réaliste, mais en même temps très très concret. Donc elle travaille au stylo bic et elle remet les couleurs à la gouache. Donc ça donne un côté très très organique. Et si je devais dire quelque chose sur la cruauté, c'est que voilà, c'est vraiment un livre peut-être sur l'isolement, qui montre la fragmentation des êtres et pourquoi ils communiquent, et pas forcément pour des bonnes raisons. Mais en même temps, la bande dessinée, par son liant, par cette manière, il y a ce motif de l'escargot, hein, qui revient à plusieurs reprises puisqu'il est écrasé. Mais Moeb va aussi sauver l'escargot, le mettre derrière la grille pour le remettre dans l'herbe. Et il y a aussi cette attention. En fait, c'est une autrice qui fait attention à son personnage. Et toute cette attention qu'elle met, c'est peut-être là qu'est le manifeste pour bien accueillir les migrants sur cette question de faire attention les uns les autres.
Il reste vraiment quelques secondes, mais il y a aussi certains moments où l'autrice s'autorise le rien, parce qu'en fait, il s'ennuie aussi beaucoup sur ce banc.
Mais c'est ça, et c'est là que je parlais de l'ambiance qu'elle décrivait. Moi, j'ai lu le scénario de Clara Ludwig avant, c'était rien, quasiment. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un qui écrit en bande dessinée, qui dessine au fil des cases et qui découvre presque ce qu'elle va raconter au fur et à mesure où elle le fait. Elle a énormément progressé en dessin depuis Merelle, et elle a notamment une façon d'utiliser des très grosses mains à ses personnages, comme peut le faire Tardy en bande dessinée, qui en font des outils d'expression fabuleux. Donc c'est une grande autrice en train de naître, Clara Ludwig.
Moeb sur le parking, apparu aux éditions Dupuis, et vous retrouverez bien sûr toutes les références de ces deux bandes dessinées, de ces trois bandes dessinées avec votre coup de cœur Antoine, et le podcast de cette émission sur la page des Midi de Culture sur le site franceculture.fr.